Le journal du Vimbinga. Mesdames, messieurs, bonsoir. La méningite tue à Tandombelo au Bandundu. 28 morts en 2 jours seulement sur les 35 malades enregistrés. Mystère pour l'instant quant aux causes de cette maladie. Des études sont en cours dans ce district du Maïndombé. Et puis nous reviendrons sur la question du statut militaire ou non de Joseph Kabila après la publication le 15 mars dernier du décret présidentiel portant acceptation de sa démission volontaire des FRDC. Dans ce journal, les réactions du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Maître Nkoulou, ainsi que du président de la CEI, l'abbé Malumalu. Le diocèse de Wamba, bientôt à l'honneur, il aura ses tout premiers enseignants pygmées. Objectif, stimuler d'autres pygmées à poursuivre leurs études, a signifié le responsable de la commission pastorale des pygmées dans ce diocèse de la province orientale. Encore une fois, bonsoir. Le village Tandombelo dans le district du Maïndombé face à la recrudescence de la méningite. 28 morts en 2 jours seulement dans cette partie du Bandundu. 35 cas avaient été enregistrés depuis le week-end dernier. C'est toujours le mystère quant aux causes de cette maladie. Mais notez qu'une équipe d'experts est déjà sur terrain à Tandombelo pour étudier cette maladie. Plus de précisions avec le médecin directeur de l'hôpital de référence de Nyoki, toujours dans le district du Maïndombé, dans le Bandundu. Docteur Justin Pia a été joint au téléphone par Donna Madimba.
D'après les statistiques à notre disposition, il y a eu 35 cas jusqu'hier avec 28 décès. Alors, nous avons fait nos déclarations au niveau de la province et puis de Kinshasa. Les médecins sans frontières ont déjà réagi parce qu'il y a une délégation sur place ici qui se déplacera demain pour Tandembelo en attendant un kit de médicaments pour faire face à cette épidémie.
La méningite, pour ceux qui ne le savent pas, est une maladie qui tue, mais très peu connue du grand public. Une maladie que tente de nous expliquer Donna Madimba.
La méningite est une infection qui attaque la tête au niveau du cerveau et de la moelle épinière. On l'appelle méningite parce que ces parties de la tête où la maladie se manifeste le plus sont familièrement appelées méninges. Selon les médecins, on distingue généralement 2 formes essentielles de méningite, la méningite virale et la méningite bactérienne. La méningite virale, forme la plus répandue de la maladie, est généralement causée par un virus et la méningite bactérienne, causée par des bactéries. Mais qu'elle soit virale ou bactérienne, la méningite provoque presque toujours des forts maux de tête, une grosse fièvre, le cou qui bloque et des vomissements. Pour soigner la méningite, il faut aller voir un médecin qui prescrira le traitement approprié. Il s'agit pour les médecins de soulager les parties de la tête attaquées par l'infection. Notez que le traitement de la méningite existe bel et bien, mais que se soigner tout seul, c'est vraiment dangereux.
Merci à toi, docteur Donna Madimba. Quelle réponse la Cour suprême de justice va-t-elle réserver aux requêtes de demande d'invalidation de la candidature de Joseph Kabila au présidentiel? Difficile de le savoir pour le moment. En effet, depuis la publication de la liste provisoire des candidats présidents de la République retenus par la CEI, certains partis politiques, notamment la Convention chrétienne pour la démocratie, le Front patriotique et le Mouvement de solidarité pour le développement, dénoncent le statut militaire que porterait jusqu'alors Joseph Kabila. Alors que la question se pose, le journal officiel numéro 7 du 1er avril 2006 vient de publier un décret présidentiel portant acceptation de la démission volontaire de Joseph Kabila des FRDC. Ce décret signé le 15 mars dernier intervient après que le chef de l'État Joseph Kabila se soit fait enrôler comme électeur l'année passée. Est-ce une confusion? Non, pas du tout, explique Maître Koulou Kilembo, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État chargé des questions juridiques, joint au téléphone par Innocent Olenga.
Le 15 mars, le chef de l'État a signé le décret portant acceptation de la démission d'un officier général.
Mais le général-major Joseph Kabila introduit sa requête afin d'obtenir acceptation de sa démission volontaire de l'armée. Requête adressée à lui-même le 14 mars 2005. Il accepte sa propre démission volontaire le 15 mars 2006, soit une année après. Pouvons-nous admettre que Joseph Kabila s'est fait enrôler comme électeur en ayant le statut militaire?
Que dit la loi relative à l'enrôlement? L'article 9 dit « ne peuvent être inscrits sur la liste des électeurs les militaires et policiers en fonction ». Au moment de l'enrôlement, il est militaire, mais il n'occupe pas de fonction militaire. Maintenant, il s'est dépouillé de sa qualité de général-major, on doit donc distinguer l'enrôlement, qui est régi par une loi spécifique, les élections, dont les conditions sont prévues par une autre loi.
Maître Koulou Kilembo, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État chargé des questions juridiques. La CEI, pour sa part, dit avoir respecté la loi. S'il y a des comptes à demander sur des personnes qui sont militaires ou pas, il faut s'adresser au ministère de la Défense et à l'état-major des FRDC qui ont soumis la liste des officiers militaires en fonction, estime son président, l'abbé Apollinaire Malumalu. Il est au micro de Innocent Olenga.
Lors de l'enregistrement des électeurs, rappelez-vous, que disait la loi? La loi parlait de militaires en fonction. Pour moi, je n'avais qu'à m'adresser, et ça c'est le bureau de la commission électorale, au ministre de la Défense, au chef d'état-major de l'armée. Ces deux autorités, habilitées à dire si quelqu'un est en fonction ou pas, ont donné la liste des officiers généraux en fonction. Là s'arrête le travail de la commission électorale indépendante. Maintenant, la démission dans l'armée, tout ça, ça c'est une procédure qui ne nous concerne pas. Ça c'est une procédure qui concerne l'armée. Vous parlez des décrets, ce décret ne m'intéresse pas. Moi, je vous parle du moment où la commission électorale indépendante a décidé de l'enregistrer comme électeur. Ne me demandez pas moi des comptes pour savoir si quelqu'un est militaire. Demandez des comptes au ministre de la Défense. Demandez des comptes au chef d'état-major de l'armée. Demandez des comptes au conseil supérieur de la Défense.
Abbé Apollinaire Malumalu, président de la CEI. Direction Boutembo à présent, les préparatifs sur les prochaines élections vont bon train du côté de l'association paysanne Alpha Oujouvi. Nous en voulons pour preuve ces 35 alphabétiseurs que vient de former cette association en collaboration avec la CEI et le PNUD. Sachez que 8 pygmées se retrouvent parmi les 35 bénéficiaires de cette formation. Reportage Étienne Mouindo.
C'est au moyen d'images sympathiques que les alphabétiseurs vont apprendre aux membres de leur association à lire, à écrire et à calculer. D'après Mme Chao Swanzoli, chargée de l'alphabétisation sur l'axe Beni-Lubero, 145 centres d'alphabétisation fonctionnent depuis le mois de janvier dans le secteur de Beni-Lubero. L'alphabétisation ne pose pas de problème. En moins de 50 jours, 40 personnes sont formées par centre, explique M. Paul Mahamba, formateur au sein de l'association Alpha Oujouvi. À travers des petites questions, les apprenants découvrent eux-mêmes les thèmes du jour qui sont la démocratie, les élections, le vote, la constitution et la liberté. Les cours se donnent en swahili, cependant les termes techniques sont expliqués à Kinandé, le dialecte le plus répandu dans le secteur, précise en outre le formateur Paul Mahamba. Selon les pygmées Moussali André, visiteur des séminaires de formation, les pygmées du territoire de Beni participent avec engouement aux séances d'alphabétisation. Les pygmées sont décidés de prendre part aux prochaines élections, pas seulement comme électeurs, mais aussi comme candidats. Étienne Mouindo, Boutembo, Radio Capitale.
Le diocèse de Wamba, dans la province orientale, aura bientôt ses tout premiers enseignants pygmées. Sur un total de 300 classes, 5000 pygmées fréquentent l'école. Selon le père Franco Lodani, responsable de la commission pastorale des pygmées au diocèse de Wamba, ses élèves du secondaire seront recrutés comme enseignants en vue de stimuler leurs semblables à poursuivre les études. On écoute le père Franco au micro de Jacques Moukonkole.
Suivant ces enfants, et nous avons proposé un cycle court pour avoir un peu avec vitesse des enseignants pygmées et encourager les autres. Mais déjà, parmi ce groupe d'enfants qui se trouve à Bayenga, il y a quelqu'un qui a demandé, non, mon père, moi je vais suivre le cycle long. Parmi ces pygmées, il y a quand même quelqu'un qui mérite et qui promet très bien. Je vous ai dit qu'en troisième année, le premier de la classe, hein, c'est un pygmée avec 68%. Donc nous avons de bons espoirs que si nous continuons à assister ces enfants, surtout en brousse, hein, afin qu'ils puissent persévérer à l'école jusqu'en sixième, l'année prochaine à Bayenga, nous envisageons une quarantaine d'élèves à l'école secondaire.
Restons dans la province orientale sur un tout autre chapitre. Le marché de Kisangani commence à être approvisionné en vaches à partir de pays voisins. Plus d'une centaine de têtes de bétail sont arrivées de la République centrafricaine à plus de 500 km au nord de Kisangani. Cependant, cette nouvelle donne du marché de bœufs à Kisangani crée l'insécurité et des tracasseries dans le rang des grossistes de bœufs. Retour sur le dossier Snell avec la réaction de l'administrateur délégué général de l'entreprise sur la demande de la délégation syndicale de supprimer le tarif préférentiel octroyé à 16 entreprises installées en RDC. La Snell ne donne jamais de tarif préférentiel à des entreprises. Seul le ministère de l'Économie, à travers un comité de suivi et après analyse des dossiers de ces différentes entreprises, propose l'octroi de ces rabais avec la signature du ministre de l'Économie. Déclaration de l'administrateur délégué général de la Société nationale d'électricité, Vika Dipanzu. Il affirme également que la SNEL n'a jamais été consultée par le ministère de l'Économie sur cette question. Vika Dipanzu au micro de Guy Roger Niampala.
Il s'agit d'une décision, d'un arrêté ministériel qui a été pris par le ministre de l'Économie. Et bon, comme c'est une instruction qui vient de l'État propriétaire, SNEL doit l'appliquer et SNEL l'a appliqué. Mais c'est pas SNEL qui a donné ces tarifs-là. Et en ce qui concerne le comité de gestion de la SNEL, ça fait une année que nous sommes en train de vivre cette histoire d'octroi, de rabais de tarifs pour certains industriels de la place. Nous avons constitué un dossier. Et ce dossier-là, nous l'avons envoyé au ministre de l'Économie. Pas l'actuel, mais celui qui était là avant. On est allé le voir, c'était au courant de l'année dernière, je pense qu'on est arrivé à le convaincre que pour certains clients, en tout cas, cela n'a pas été tout à fait correct de leur donner de rabais tarifaires parce que non seulement ils n'ont pas réduit le coût, non seulement ils ne l'ont pas fait et les prix de ce produit ont monté. Donc ça, on a de nouveau réexpliqué tout le dossier complet. Il en a pris bonne note et il nous a dit qu'au niveau de la commission interministérielle, ils allaient en parler pour y trouver une solution.
C'était l'administrateur délégué général de la Société nationale d'électricité, Vika Dipanzu. Et puis cette colère de la société civile de Kimbombo à 117 km au sud-ouest de Kindu, elle dénonce les tracasseries dont elle est victime de la part des services de l'Agence nationale des renseignements. Des taxes appelées de contact sont imposées à la société civile et à toute personne qui veut communiquer par phonie. Le responsable de la société civile à Kimbombo se dit étouffé par cette disposition de l'ANER. Monsieur Onda Katsile est au micro de Gabriel Ouamenia.
Ce problème, c'est le problème qui nous oppose avec le bureau de l'ANER qui nous traumatise chaque fois pour arrêter notre phonie. Notre phonie n'est pas une phonie commerciale, c'est une phonie communautaire qui sert toujours pour les informations quotidiennes de la situation journalière qui passe à l'intérieur. C'est pourquoi on nous a doté cette phonie. Alors, il vient chaque fois même aujourd'hui, mais j'ai eu leur invitation, me disant je ferme la phonie. Parce qu'il nous demande la caution. Jusqu'à présent, il me demande la taxe sans toutefois me donner le chiffre. Il me dira qu'ils sont autorisés par la province.
Contacté à ce sujet, le directeur provincial de l'ANER, Maniema, dit qu'il revient à son service le droit de contrôler les agences de communication, mais sans tracasser ni imposer des taxes illégales. Inauguration hier lundi par le gouverneur de l'Équateur des routes Bobala-Bompoma et Sekli-Benonga, deux routes de desserte agricole au sud de Mbandaka réhabilitées par la FAO avec l'appui du PAM. Plus de 500 tonnes de vivres sont produites chaque année le long de ces deux routes. Mais les paysans arrivaient rarement à les écouler au chef-lieu de l'Équateur suite au mauvais état de ces routes, d'où leur satisfaction après l'inauguration de ces deux routes longues, l'une de 12 et l'autre de 8 km. Ses habitants sont au micro de Paul Richard Malengela.
Grand merci pour la réhabilitation de cette route, car nous avons trop souffert au début quand nous avions entrepris ces champs. Malgré nos récoltes, il était difficile de les évacuer. Pour transporter les marchandises, les transporteurs nous exigeaient de remettre la moitié. Même si vous chargez vos produits, sur un trajet de 4 km, vous allez marcher à pied et arriver deux jours avant le véhicule. En 2003, nous avions tenté d'aménager la route à la main, mais sans succès. Lorsque nous avons produit beaucoup de riz, nous avons sollicité une aide auprès des humanitaires. Alors la FAO nous a envoyé des techniciens. Ils nous ont aidés à poser des dallos et à recharger des digues. Désormais, nos produits seront évacués librement. Nous étions en difficulté pour évacuer nos produits à Mbandaka. Nous sommes très contents de la réhabilitation de notre route.
Dehors de nos frontières, au Kenya, au moins 14 personnes ont été tuées hier lundi dans le centre du Kenya dans l'accident d'un avion militaire à bord duquel se trouvaient 17 personnes, dont des parlementaires et responsables du gouvernement kenyan. L'appareil, un bimoteur de type Buffalo appartenant à l'armée kenyane, s'est écrasé vers 10 heures dans les environs du parc national de Marsabit.